Alors, comme chaque fin de mois, dorénavant, nous recevons maintenant Bruno Denas. Bonjour.
Bonjour Jacques Monin, bonjour à tous.
Vous êtes le médiateur de Radio France. Vous recevez les remarques que les auditeurs vous font remonter sur Secret d'Info. Et on va donc tenter de répondre aux interrogations et aux critiques que vous avez pu recevoir à notre sujet. Alors d'abord, un mot de cette enquête que nous avions diffusée sur Proximania, cette société spécialisée dans la téléphonie mobile, qui a laissé sur le carreau près de 500 actionnaires.
Comme Xavier, d'ailleurs, il nous l'a écrit, « J'ai moi-même été victime de cette arnaque pour un investissement de 20 000 euros. » Il ajoute, « Notre association de défense des actionnaires a mis en cause devant les tribunaux l'expert comptable et les commissaires chargés de valider les comptes de cette société. » Or, le TGI, le tribunal de grande instance, et la cour d'appel de Paris ont jugé notre démarche irrecevable et nous ont condamnés à payer les frais de justice, un comble que vous n'avez pas évoqué. Comme chaque membre de l'association, j'ai dû débourser 150 euros à ce titre. C'est vrai que tout ça, ça peut sembler injuste.
Oui, on se sent victime et en même temps, on est obligé de payer. C'est un peu, effectivement, la pilule doit être un peu amère. Question donc pour Élodie Guéguin, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, pourquoi ne pas en avoir parlé?
Parce que c'était un des éléments de l'enquête, de cette affaire assez incroyable, une affaire un peu à tiroir. C'est un élément qu'on avait, mais j'allais dire que c'était un peu l'affaire dans l'affaire.
On ne peut pas tout dire, malheureusement.
On ne peut pas tout dire, malheureusement, mais Xavier a raison. C'est un élément important, puisque ces actionnaires, ils ont investi, rappelons-le, des dizaines de millions d'euros dans une société qui n'a jamais fonctionné. Ces comptes auraient été falsifiés, et pourtant, ils ont été certifiés par des commissaires aux comptes. Donc, qu'ont fait ces petits actionnaires? Ils ont voulu se retourner contre les commissaires aux comptes, mais la justice a estimé en fait qu'ils n'avaient pas intérêt à agir. Leur action en justice a été jugée irrecevable.
Alors intérêt, il faut préciser, c'est vraiment un point de droit, c'est-à-dire qu'on
on a un intérêt
parce qu'on est victime,
exactement.
Mais en même temps, c'est pas sur ce point-là qu'il fallait agir.
C'est ça, et donc leur démarche a été jugée irrecevable. C'est un comble en effet pour ces petits investisseurs qui attendent un procès, rappelons-le, et qui ne voient rien venir puisque l'enquête elle est ouverte à Paris depuis maintenant plus de 7 ans.
C'est toujours la difficulté du droit. Parce que c'est vrai de dire à quelqu'un, vous n'avez pas intérêt à agir alors que vous avez perdu 20 000 euros, ça, c'est dur à entendre hein, quand même.
C'est vrai.
Ouais. Autre chose, Bruno.
Ah oui, Jacques, et cela concerne l'enquête sur les batteries et les voitures non polluantes. Cette enquête a visiblement passionné les auditeurs. L'une des remarques qui revient le plus souvent concerne l'extraction du lithium et le recyclage des batteries très polluantes. Catherine, par exemple, vous pose deux questions. Savez-vous si les réserves mondiales de lithium permettront de remplacer le parc mondial des véhicules thermiques? Et d'autre part, d'où viendra l'électricité qui alimentera ces centaines de millions de véhicules électriques?
Alors on va préciser qu'on n'est pas des experts en lithium et en batterie, on est des journalistes, on enquête et ensuite on vous fait part des éléments qu'on a découverts. Mais Philippe, vous avez sans doute l'information, alors est-ce qu'il y aura
j'ai demandé à Jean-Michel Tarascon, qui est l'éminent spécialiste au Collège de France. Je lui ai demandé, on en a pour combien de temps? La réponse, c'est entre 30 ans et 50 ans. Alors, il y a juste un détail intéressant, c'est qu'on estime qu'il n'y aura que 40 millions de voitures électriques en 2025 en circulation, c'est-à-dire un peu moins de 10% du parc mondial. Et dans ce cas, bon, il y aura assez de lithium pour tout le monde. Je vais aussi préciser une chose, si vous me le permettez, parce que vous me donnez l'occasion pour rendre à César. Le premier témoignage qu'on entend dans cette enquête, c'est celui de Michel Armand. Alors, Michel Armand, c'est bien l'inventeur de la batterie lithium-métal-polymère, celle de l'Autolib, de Bolloré. Et c'est bien lui que vous avez entendu. Mais celui de la batterie lithium-ion-graphite est aussi un Français, un Franco-Marocain, qui mérite tout autant, le docteur Rachid Yazami. Ils ont tous les deux travaillé pour le CNRS à Grenoble.
Oui, parce qu'il faut préciser, Philippe, qu'on nous a effectivement reproché de présenter Michel Armand comme l'inventeur de la batterie telle qu'on la connaît
c'est
aujourd'hui.
C'est le premier.
C'est le premier, c'était le principe, effectivement, derrière, il y en a eu d'autres. Hein, mais c'est vrai que...
Mais ça ne change pas la démonstration.
C'était, et puis, c'est ce que vous précisiez, c'était aussi une invention française. Bon, on va continuer, Bruno. Vous avez reçu d'autres remarques sur d'autres enquêtes que nous avons diffusées.
Alors, évidemment, sur le dossier du cimentier français Lafarge, ce dossier très documenté et aux nombreuses révélations d'Élodie Guéguin et Benoît Colomba, a suscité énormément de réactions et de questions. Première réaction, l'attitude de Lafarge qui a choqué nombre d'auditeurs. Pour Dominique, du pognon à tout prix, oui, y compris celui d'un minimum de moralité. Et Dalila résume bien ce que ressentent beaucoup d'auditeurs. Donc Lafarge est complice pour les attentats. Seront-ils jugés à la hauteur de leurs actes? Mais elle reste quelque peu dubitative. Encore une énième affaire qui va durer 20 ans et tous seront blanchis.
Bon, alors deux choses. Attendez, sur la deuxième partie, on va répondre. Peut-être d'abord juste préciser sur la première. On peut comprendre l'indignation, effectivement, d'un auditeur ou d'une auditrice qui, entendant ces informations, se dit « mais c'est incroyable ce que Lafarge a fait ». Après, attention, d'abord, personne n'a été condamné dans cette affaire. Donc, parler de complicité lorsqu'aucune condamnation n'a été prononcée, prononcer, c'est un peu problématique. Par ailleurs, ce qui est reproché à Lafarge, ou ce dont on soupçonne Lafarge, c'est d'avoir financé des groupes armés, au sein desquels il y avait probablement des groupes de Daesh. Mais pour être complice, il faut à la fois collaborer à la mise en place d'un acte, et il faut avoir l'intention de s'associer à cet acte. La personne à ce stade ne peut dire que Lafarge avait l'intention d'aider Daesh à commettre des attentats. Donc là, je crois qu'il faut être très prudent. Après, sur la deuxième partie, c'est-à-dire l'enquête, qu'est-ce qu'elle peut donner, Benoît Colomba, elle va être
sur le fait de savoir si tout le monde sera finalement blanchi dans cette affaire, à ce stade, il n'est absolument pas possible de dire une chose pareille. Peut-être juste rappeler quelques éléments factuels très rapidement. Des magistrats enquêtent sur cette affaire depuis 4 mois. 3 juges ont été saisis, avec des spécialités différentes d'ailleurs. Il y a des juges antiterroristes, des juges financiers. Ce qu'il faut dire encore, c'est qu'il y a plusieurs temps dans une enquête judiciaire. Il y a le temps des investigations, les juges peuvent faire des perquisitions, entendre justement les anciens salariés de Lafarge, récupérer des documents comme des mails par exemple, comme on peut l'entendre dans notre enquête. Voilà, c'est le temps dans lequel nous sommes. Ensuite, il y a un deuxième temps qui est le moment où il faut établir les responsabilités des uns et des autres avec possiblement des mises en examen. Et puis, éventuellement, dernier temps, le temps du procès, où là, les juges décident que le dossier est assez solide et donc il est possible de renvoyer les différents protagonistes devant un tribunal, mais on n'en est pas encore là.
Ce que j'entends, moi, dans la question qui nous est posée, c'est qu'on a parfois le sentiment qu'effectivement, certaines affaires n'aboutissent pas, notamment des affaires politiques. Et le sentiment que ça donne, c'est qu'effectivement, certaines affaires qui ont été extrêmement médiatisées...
Parfois, ça n'aboutit à rien.
Emmanuel Macron a surfé là-dessus lors de son discours à Versailles, en disant, regardez la presse qui sort des affaires et puis à l'arrivée, judiciairement, ça ne donne rien. Il y a d'autres affaires qui aboutissent, l'affaire Cahuzac, par exemple, pour ne citer que celle-là, elle aboutit. Donc là aussi, il ne faut pas généraliser. Il y a une autre question sur Lafarge.
Alors, il y a notamment Elisabeth, alors vous en avez un petit peu parlé, mais qui vous demande si on peut vraiment dire que Lafarge finançait Daesh, avec cette précision qui est intéressante, ou si plutôt la société était rackettée pour éviter que les employés locaux ne soient menacés.
Alors, Benoît.
Alors, ce qu'on peut dire, là pour le coup, qui est prouvé par les investigations, c'est que Lafarge a été rackettée, certes, mais surtout que l'entreprise a accepté ce racket, puisque Lafarge est restée en Syrie en toute connaissance de cause. Elle avait même mandaté un intermédiaire pour négocier justement avec ces différents groupes racketteurs. Plusieurs responsables expliquent que Lafarge savait qu'une partie de cet argent allait notamment dans les poches de groupes djihadistes et de Daesh. Et donc, on peut dire qu'effectivement, ils ont versé de l'argent à ces groupes. Alors, toute la question est d'établir maintenant si pénalement, là encore, il faut être très précis, si pénalement, il s'agit bien de financement du terrorisme. Et quant à savoir si Lafarge a en fait payé pour protéger ses salariés, là, ce qu'on peut dire, c'est que certains anciens salariés employés de l'usine estiment, eux, au contraire, que Lafarge les a mis en danger en poursuivant son activité dans une zone, à l'époque, qui était en pleine guerre civile.
Alors certains auditeurs aussi ne voient pas pourquoi accuser le Quai d'Orsay pour Martine, par exemple. Quel intérêt pourrait avoir le ministère des Affaires étrangères à maintenir une société privée dans une zone sous emprise terroriste? Le seul à y gagner, c'est Lafarge.
Élodie, est-ce que le Quai d'Orsay peut être mis en cause?
Alors, il y a deux choses dans cette question, en tout cas. Déjà, nous n'avons pas, je pense, accusé le Quai d'Orsay. Nous avons posé des questions que nous estimions légitimes. En effet, des responsables de Lafarge, lorsqu'ils ont été interrogés par les enquêteurs, ont expliqué que le ministère des Affaires étrangères suivait les activités de Lafarge pendant la guerre, était informé. Tous les 6 mois, il y avait des rendez-vous avec des diplomates français. Et c'est d'ailleurs pour cela, pour ces déclarations-là, que les participants civils réclament aujourd'hui l'audition de l'ancien ministre Laurent Fabius. Et puis donc, il y a ce deuxième point. Martine nous demande quel intérêt aurait pu avoir le Quai d'Orsay à voir Lafarge maintenir ses activités en Syrie. Là encore, c'est une question que l'on pose dans l'enquête. Nous n'avons pas de réponse précise aujourd'hui. Nous sommes contenté d'émettre des hypothèses en quelque sorte, car cette question n'est pas anodine. La France aurait pu avoir un intérêt stratégique à maintenir une entreprise sur place au moment où on le rappelle, tous les canaux de communication entre Paris et Damas étaient fermés, étaient rompus. Il n'y avait plus de communication entre les services secrets français et les services syriens. Donc avoir une entreprise dans cette zone si instable, ça permettait peut-être aussi de faire remonter des informations. Encore une fois, nous n'avons pas de réponse toute faite à cette question et nous n'accusons personne, ce n'est pas notre rôle.
C'est l'occasion justement de rappeler, de préciser et d'assumer d'ailleurs que dans cette enquête, il y avait effectivement une partie qui était purement factuelle et une deuxième partie qui soulevait des hypothèses. Mais si on n'essaie pas de donner un minimum de sens aux choses, à un moment donné, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, il y a une autre enquête, apparemment, Bruno, qui a fait beaucoup parler.
Ah oui, ça, il est sûr qu'un dossier sur la SNCF, le dossier de Laetitia Chérel, suscite beaucoup, beaucoup de réactions, à commencer, même si ça n'était pas directement le sujet, par les clients excédés. Et là, je cite, les trains très souvent en retard, les incidents qui se multiplient sur les voies, chute de caténaire, panne de train, lignes vieillissantes et les tarifs qui ne cessent d'augmenter. Est-ce que, comme le sous-entendent de nombreux auditeurs qui nous ont écrit, ces dépenses pharaoniques de la SNCF en matière de communication et de lobbying sont une des raisons des tarifs de plus en plus élevés et des services de moins en moins bien rendus?
Alors Laetitia?
C'est sûr qu'il y a de quoi être tenté de faire le lien entre, d'un côté, 210 millions d'euros par an entre 2007 et 2011 dédiés à la communication, 6 millions d'euros dépensés pour l'inauguration cet été de deux lignes TGV, et puis de l'autre, des gros bugs comme on a connu à la gare Montparnasse fin juillet, quelques semaines plus tard après l'inauguration de ces TGV, où là, 70 000 voyageurs n'ont pas eu d'informations pendant trois jours. Donc, il y a de quoi tenter de faire le lien entre ces deux facteurs. Mais d'après les spécialistes que j'ai pu consulter, les dépenses de communication n'auraient pas vraiment d'effet en fait sur le coût des billets, qui repose lui sur trois facteurs importants. Le premier, c'est le prix des péages que payent les TGV pour rouler, le prix de la location des sillons, comme on dit dans le jargon. Deux, c'est l'amortissement des TGV qui coûte très cher, parce qu'un TGV, pour l'amortir, il faut qu'il roule longtemps. Or, en France, il roule entre 6 et 9 heures par jour et qu'il roule vite. Or, sur une ligne comme par exemple Paris-Toulouse, après Bordeaux, le train il se traîne. Et puis, la troisième raison du coût élevé des billets, semble-t-il, c'est la productivité de la SNCF qui ne serait pas assez élevée.
Mais c'est vrai qu'on en revient toujours au sens des choses, c'est-à-dire le problème, c'est à quoi sert cette communication? Si elle est faite pour effectivement être fort dans un marché concurrentiel, pourquoi pas? Si elle est faite pour informer les passagers, enfin, on a vu qu'à la gare Montparnasse, il y avait quand même un déficit de communication. Quand on est dans un TGV qu'on s'arrête en race campagne, on n'est pas toujours informé de ce qui se passe à l'intérieur. Et là, on se dit où est la communication? Et là, il y a un hiatus, quoi. Là, il y a un problème. D'autres enquêtes ont montré que la communication à la SNCF aussi était aussi instrumentalisée et pour effectivement développer l'image de l'entreprise, voire du patron, mais également parfois pour travestir la vérité. On l'a vu dans le cas de l'affaire de Bretigny, on a des machines de communication qui se mettent en route pour essayer de démolir des rapports d'experts parce qu'ils vont contre les intérêts de l'entreprise, alors que l'intérêt des victimes, le droit à la vérité, passe après finalement cette machine de communication. Et c'est là que ça pose problème, c'est à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on le fait, quoi.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous évoquez en quelque sorte un peu la transparence. Et justement, plusieurs auditeurs s'insurgent contre le président Guillaume Pépi, qui refuse de vous répondre, mais qui ne cesse de prôner la transparence. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, Laetitia Chérel, durant votre enquête?
La principale, ça a été celle-ci. C'est-à-dire que j'ai demandé en bonne et due forme, par mail, 10 jours avant la diffusion de l'enquête, à rencontrer, à interviewer Guillaume Pépi. Et puis, ça m'a été refusé. Donc, après avoir relancé plusieurs fois le service de communication, j'ai finalement appris qu'il se rendait dans un colloque, donc je me suis dit que j'allais essayer de le voir directement. Donc il a été assez surpris et effectivement, apparemment, il n'avait pas vraiment bien préparé sa réponse. Donc en me promettant de la transparence, finalement, il refusait de s'exprimer. C'est sûr que ça donne le sentiment que sur des sujets, disons, qui valorisent la SNCF ou qui le valorisent, le président de la SNCF s'exprime très volontiers. En revanche, dans le cas de vous citer, où moi j'arrivais avec une lettre qui était un peu délicate pour lui, puisqu'il faut le rappeler, c'était une lettre dans laquelle il disait noir sur blanc qu'il ne voulait pas qu'on passe d'appel d'offres avec une agence de publicité. Là, ça donne le sentiment qu'il revoit vers son service de communication, ce qui est peut-être un peu dommage.
On va peut-être conclure là-dessus, Bruno.
Exactement, mais quand même pour terminer, Jacques, je voudrais signaler la réaction de plusieurs auditeurs comme Nathalie qui vous félicite d'avoir lancé ce droit de suite avec le médiateur.
Vous me donnerez son téléphone.
C'est intéressant que, je cite donc Nathalie, c'est intéressant que vous reveniez sur vos enquêtes avec des précisions, des explications et que vous répondiez à des critiques. C'est rare à la radio. Bravo.
Bon, écoutez, merci, merci à Nathalie, merci à ceux qui le pensent. D'ailleurs, on répond évidemment à toutes les critiques, mais les compliments aussi, on les prend. Et je précise que la cellule investigation de Radio France, vous le voyez encore, vous l'entendez, c'est d'abord une équipe et qu'une enquête, ça ne se fait jamais d'ailleurs de toute façon tout seul. Bon, Bruno, on vous retrouve dans un mois. J'en profite pour encourager tout le monde, donc plus que jamais, à poster des commentaires sur le site du médiateur, médiateur.radiofrance.fr, mais aussi sur franceinter.fr ou encore sur la page Facebook de Secret d'Info. Allez, restez avec nous dans un instant. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, comme vous ne le connaissez pas, sauf évidemment si vous êtes lyonnais.